L'art est le méconnu, une collection de Bruno Nassim Aboudrar.
L'art est le méconnu, une collection qui s'intéresse à de nouveaux territoires pour l'histoire de l'art. Des territoires jusqu'alors non pas inconnus, mais méconnus. C'est-à-dire qu'on en connaissait l'existence, mais on les considérait négligemment, avec condescendance. Aujourd'hui, décoloniser la peinture. Puissance coloniale, la France, par ailleurs exportatrice de peinture orientaliste, a des jugements contrastés quant aux capacités naturelles des indigènes, comme on dit à l'époque, qu'elle prétend civiliser, toujours dans le vocabulaire de l'époque, à devenir des artistes au sens occidental de la notion, et notamment des peintres. Selon les colonisateurs, les Africains en sont définitivement trop éloignés. Les Arabes excellent dans les arts décoratifs non figuratifs, mais leurs penchants innés comme leur religion leur interdisent la grande peinture figurative. Seuls les Indochinois peuvent y parvenir. Fort de ces préjugés, des ateliers de formation à l'artisanat autochtone sont ouverts au Maroc et en Algérie, tandis qu'une véritable école des beaux-arts, sur le modèle de celle qui existe en métropole, est fondée à Hanoï. À l'heure des indépendances, l'accession à une peinture spécifique, à la fois déterminée par des normes occidentales et prétendant contester vigoureusement le modèle colonial, voit le jour au Vietnam comme en Afrique du Nord, dans le contexte nouveau de la guerre froide et de l'émergence du tiers-monde. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Émilie Goudal, spécialiste de peinture algérienne et plus généralement d'Afrique du Nord, à l'époque des indépendances, auteur de « Les damnés de l'histoire », Les arts visuels face à la guerre d'Algérie, publié aux Presses du Réel en 2019. Je reçois également Pierre Palliard, auteur d'un livre sur l'école des beaux-arts de Hanoï, Un art vietnamien, penser d'autres modernités, réédité chez l'Harmattan en 2021. Alors, je voudrais pour commencer rappeler quelques différences historiques dans la colonisation de ces deux régions du monde par la France. Comme on sait, la colonisation de l'Algérie débute autour de 1830, mais elle ne devient une colonisation dite de peuplement importante qu'à partir des années 1850. L'Indochine est une colonie, elle, formée progressivement au cours des années 1880 par les réunions du Cambodge, de l'Annam, de la Cochinchine, du Laos et du Tonkin, réunion qui est effective en 1887 et demeurera dans l'ensemble une colonie d'exploitation, c'est-à-dire avec assez peu de Français de métropole. Sur le plan des arts, on assiste, et ça peut paraître contre-intuitif, puisque dans un cas on a une colonie de peuplement et dans l'autre une colonie d'exploitation, mais c'est dans la colonie d'exploitation que l'on note la création, dès 1924, d'une école d'art à Hanoï par un peintre français, Victor Tardieu, associé à un artiste vietnamien, Nam Son, dont la figure demeure, je crois, assez mystérieuse. Pierre Palliard, est-ce que vous voulez dire quelques mots de ces deux hommes ?
Oui, juste un mot auparavant pour préciser que avant l'existence de l'école des beaux-arts de Hanoï, il existait des écoles d'art appliqué. Il y en avait plusieurs, il y en avait trois dans l'actuel Vietnam et il y en avait une au Cambodge. Et là, on apprenait aussi le dessin. Donc il y avait un enseignement qui visait l'artisanat local essentiellement. Et quand Tardieu arrive au Vietnam, il a connaissance évidemment de ces enseignements, mais il dit que ça ne marche pas du tout. C'est tout à fait insuffisant pour susciter un artisanat intéressant et qui puisse rompre avec la décadence que l'on constate au moment où il est là-bas. Une décadence des arts traditionnels, une décadence, tout le monde tente à dire ça, eh bien, pour lutter contre cette décadence, il faut faire une véritable école des beaux-arts dans laquelle on formera des gens qui ne seront peut-être pas complètement des artistes, mais en tout cas des gens d'un réel talent qui pourront eux-mêmes former les gens dans les écoles d'art appliqué.
Très bien, n'anticipons pas trop car cette question de décadence et de formation des arts appliqués va nous occuper pendant une partie de l'heure car je la crois fondamentale et la comparaison sur ce point avec l'Algérie est tout à fait riche d'enseignements. Donc pendant que la France crée un peu avant 1924 et puis pour la grande école en 1924, comme vous venez de le rappeler, des écoles d'art. Pendant ce temps, à Alger, la situation est assez différente, il me semble. Il y a une école des beaux-arts d'Alger qui est créée dès 1907, mais qui n'est pratiquement pas ouverte aux populations qu'on appelle les musulmans, c'est-à-dire en gros les Algériens de souche. Et de la même manière, la villa Abdel Hatif, qui est fondée la même année en 1907 et qui est une sorte de villa Médicis, ne verra jamais un artiste dit musulman, un artiste algérien parmi ses membres. Cette villa Abdel Hatif est fondée, il me semble, par deux hautes personnalités, Léonce Bénédicte, et puis surtout par le gouverneur de l'Algérie, qui sera aussi ministre des Affaires étrangères, Charles Jonnard. Émilie Goudal, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur cette affaire d'école des beaux-arts d'Alger, fermée globalement, il me semble, aux musulmans? Est-ce que je me trompe?
C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que on considérait l'école des beaux-arts d'Alger comme une formation supérieure qui était donc destinée à stimuler et former des artistes européens. Et ce qui est peut-être intéressant de noter, c'est que la villa Abdel Hatif, que vous avez assez justement citée, était initialement ouverte à tous. Et il est vrai que les faits ont montré qu'aucun artiste algérien, qu'il soit à l'époque, selon la période où on se place, français, musulman, indigène, n'a eu accès à cette villa Abdel Hatif, qui était en fait pensée comme étant un voyage pour les artistes, comme on allait à Rome pour stimuler la création artistique en terre nord-africaine. En ce qui concerne l'école des beaux-arts, il faut quand même distinguer le fait que, alors certes, il y a eu quelques artistes élèves qui étaient d'ailleurs recensés en termes d'élèves arabes, hein, dans les recensements qui sont présents dans l'école, qui étaient quand même présents, mais jusqu'en 1962, ils n'excédaient pas un pourcentage de plus de 10%. Quand on pense à au niveau de ce que pourrait être la population, au niveau de la représentation, c'est quand même assez éloquent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que la formation était assez tracée selon que l'on était qualifié d'élève arabe ou indigène ou français musulman ou d'origine européenne. C'est-à-dire que pour accéder aux classes de peinture, tout particulièrement peinture de chevalet par exemple, il faut attendre assez longtemps pour pouvoir avoir accès plutôt après la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont finalement, ces artistes, cantonnés à une pratique essentialisée, racialisée. Hein, c'est vraiment les termes qu'on peut retrouver dans le rapport d'Arsène Alexandre, dont on parlera probablement après, d'une sorte de génie essentialisé selon votre origine raciale.
Alors, est-ce qu'on trouve un phénomène de ce type en Indochine?
Dans le projet d'école, parce que le projet date de 24 et l'ouverture date de 25. Alors, dans le projet d'école, effectivement, il y a une dispute. Et cette dispute, Tardieu fait son projet et il trouve un contradicteur. Son contradicteur, c'est M. Silis, qui est à l'école de Phnom Penh, école d'art appliqué, qui dit « Surtout, ne prétendez pas faire des artistes avec ces gens-là, ils en sont absolument incapables. Le génie de la race, c'est de copier. » Et c'est de suivre les stéréotypes de l'enseignement chinois qui fractionne, qui divise, qui a des recettes, et puis qui met en place ses recettes, etc. Nous avons essayé de faire des choses, ça n'a jamais marché. Alors n'essayez pas.
Alors, on a ce génie de la race, c'est une expression qui me paraît très importante et sur laquelle on aura certainement à réfléchir ensemble dans la suite. Justement, à propos de génie de la race, il me semble qu'il y a une figure qu'on pourrait évoquer comme une espèce de... Alors, est-elle transgressive, ne l'est-elle pas? On va l'évoquer ensemble. C'est la figure en Algérie de Mohamed Racine.
Alors Mohamed Racine, il est important et il a suscité beaucoup de questionnements justement.
On rappelle peut-être aux auditeurs qui c'est.
Alors Mohamed Racine est un artiste qui est né en 1896, qui a été repéré par Prosper Ricard dans une école de la Casbah pour ses qualités de dessin. Il est issu d'une famille, une vieille famille algérienne qui était reconnue pour son travail justement artistique de peinture et sculpture sur bois pour les décors des maisons de notables notamment.
Je précise, peinture et sculpture sur bois, non figurative, il me semble.
Oui, tout à fait. Hein. C'est dans de l'ordre.
Beaucoup se joue autour de la question de la figuration.
Oui, on en reparlera tout à l'heure avec grand plaisir. Et donc, c'est vraiment, si vous voulez, Prosper Ricard qui repère ses qualités de dessinateur et qui arrive à négocier avec sa famille, a priori réticente au départ, qu'il puisse intégrer le cabinet de dessin en 1910, où il va justement, comme vous le disiez tout à l'heure, travailler à faire de la copie, à copier des ornements, à forger, si vous voulez, le fait de perpétuer une dite tradition authentique des arts musulmans. Alors, en Algérie.
Cabinet de dessin, je pense, pour bien préciser les choses, d'une certaine façon, ça s'oppose à atelier de peinture aussi.
Oui, et puis surtout, c'est que dans le cadre de cette formation, qu'il va rencontrer Étienne Dinet. Et Étienne Dinet va lui proposer d'illustrer, enfin de faire l'ornement justement d'un de ses ouvrages, hein, La vie de Mahomet.
Alors, Étienne Dinet, c'est une figure assez passionnante aussi. Peut-être là encore, vous pouvez en dire un mot, parce que c'est un transfuge, c'est un artiste français qui se convertit à l'islam. Peut-être pouvez-vous rappeler un peu qui c'est, parce que c'est un artiste aujourd'hui bien oublié, pour des raisons qu'on peut comprendre d'ailleurs.
Mais c'est intéressant la remarque que vous faites, l'idée que cet artiste serait oublié. En l'occurrence, François Pouillon a rédigé un ouvrage intéressant sur la vie d'Étienne Dinet. Et c'est peut-être un des artistes qui est rentré le plus facilement dans l'histoire telle qu'elle a été écrite depuis la France. Et en même temps, il est subversif, comme vous le dites, puisque c'est un artiste qui donc était en Algérie et qui s'est converti à l'islam. Et d'ailleurs, il s'est renommé Nasreddine Dinet et qui a beaucoup œuvré dans les arts en Algérie, a vraiment eu cette volonté, si vous voulez, de s'intégrer et d'assimiler une forme de symbiose avec la culture locale, et en même temps qui appartenait de droit aussi, hein, parce qu'il est important de parler de droit aussi dans le statut de ces artistes, avec un statut particulier qui était donc un artiste d'origine européenne. Mais il a été un artiste important, notamment pour permettre à des jeunes artistes d'exister sur la scène artistique, des jeunes artistes indigènes sur la scène artistique algérienne.
Alors, rapidement, qu'est-ce que Dinet fait à Racim et qu'est-ce que devient cet artiste Mohamed Racim ? Pourquoi est-il important ?
Alors, ben justement, c'est par la rencontre avec Étienne Dinet, la commande de l'ornementation de sa vie de Mahomet, donc sa présence dans un ouvrage qui a été publié, va faire connaître l'artiste, et Léon Carré va prendre la suite et proposer à Mohamed Racim d'illustrer les Mille et Une Nuits, enfin d'abord de faire le lettrage et les ornementations, mais il va aussi réaliser des enluminures dans ce cadre.
Et là, il faut préciser qu'il s'agit d'enluminures non pas réaliste, mais tout à fait figurative.
Tout à fait figurative. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, beaucoup d'historiens de l'art ont noté le travail, et notamment en Algérie, des historiens et des historiennes de l'art algériens et algériennes, ont noté le travail de la perspective, le fait de montrer une figure de la cité barbaresque, luxuriante, ou excluant toute présence européenne, et donc des images qui sont finalement aussi un travail au niveau esthétique, hein, d'une forme de symbiose avec la miniature persane.
Alors, on réfléchit ensemble sur l'idée d'art méconnu. Mohamed Racim est un artiste à la fois connu et méconnu, relativement peu connu, sinon un peu en Algérie. Il y a un artiste qui me paraît encore plus difficile à cerner, c'est Namson. Qui est cet homme qui est le cofondateur de l'école de Hanoï et dont je dois vous avouer que je ne connais pas d'œuvre?
Non, mais Namson est d'abord d'une famille de lettrés. C'est très important de souligner effectivement la présence d'une petite élite vietnamienne qui possède encore l'écriture chinoise et qui a toute une culture savante et qui peut donc regarder avec intérêt les propositions qui sont faites d'intégration dans un autre cursus culturel et historique. Et Namson, donc, est déjà instruit de la calligraphie, instruit du dessin, d'une manière générale, avant de rencontrer Tardieu. Il rencontre Tardieu au moment où Tardieu reçoit la commande d'un très grand programme de décoration de l'université de Hanoï, et il a besoin d'un aide. Et il a besoin aussi de modèles. Il est dit dans certains textes que les relations n'ont pas été tout à fait parfaites au début. Il n'y a pas eu un coup de foudre immédiat, mais progressivement, ces deux hommes se sont rencontrés. Et ils ont formé ensemble, alors beaucoup de textes aujourd'hui insistent sur ce caractère collectif de cette idée qui est venue, parce qu'effectivement, Tardieu, au début, n'a pas l'idée de rester au Vietnam. Il y va, lui, en tant que prix d'Indochine, donc il a reçu ce prix, et il est content d'aller là-bas pour faire des portraits, etc.
C'est même pas un peintre orientaliste quand il part.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Tandis que Dinet est un peintre orientaliste.
Non, lui, il y a un côté ornemaniste chez Tardieu. Il a fait des grands décors plafonnants à la mairie des Lilas ou à la mairie de Montrouge, par
exemple. Qui existe encore, si nos auditeurs ont envie de la visiter.
Je suis allé visiter, c'est tout à fait charmant et c'est d'un talent fou. C'est un homme qui a vraiment une capacité à passer d'un style à l'autre avec une élégance et une sûreté de dessin remarquable. Mais quand il va au Vietnam, il a déjà 50 ans. Hein, et arrivé là-bas, donc, il fait la connaissance de Namson, comme je vous l'ai dit, sur un projet qui est un projet de commande publique, de commande officielle. Et il va, avec la complicité de Namson, faire cette proposition d'école des beaux-arts auprès du gouverneur de la province, de l'Indochine. Alors, Namson va devenir son bras droit à l'école, son informateur privilégié, parce que Tardieu parfois n'est pas là, ou Tardieu ne peut pas venir à Paris pour une raison ou pour une autre, pour organiser une exposition, c'est Namson qui le fait. Et j'ai vu des lettres de Namson qui sont des véritables clés USB concentrées, écrites d'une écriture très fine, dans lesquelles il raconte tout ce qui se passe dans l'école à Tardieu. C'est vraiment l'homme de confiance. Et il y a une véritable complicité.
Mais en revanche, si vous avez réussi à retrouver des documents de lui, on n'a pas d'œuvre.
Non. Ah, si, il y a
des
œuvres.
Si,
il y a des œuvres. Il y a des œuvres.
Et ça ressemble à quoi?
Alors, il a fait des peintures à l'huile.
J'en connais très peu. Tout ça, je pense que ce sont des points vraiment très, très importants à souligner. Parce que la peinture à l'huile, c'est vraiment le privilège occidental par excellence. La peinture à l'eau, la peinture à l'encre, ce sont des choses, et sur soi, ce sont des choses qui existent dans les traditions, globalement, du monde chinois. Pas la peinture à l'huile.
Alors c'est délicat. C'est délicat parce que justement c'est un débat. La tradition de la peinture sur soie existait d'une manière tout à fait marginale au Vietnam. La peinture sur soie, c'est la tradition chinoise. Hein. Et lorsque, mais on aura l'occasion d'en parler probablement plus avant. Enfin, Tardieu, lorsqu'il veut acheter du matériel pour introduire justement dans l'école des beaux-arts, la peinture sur soie, il va aller en Chine chercher son matériel. Il ne va pas le trouver à Hanoï, sur place. Oui, donc Namson fait un certain nombre de choses qui sont la peinture à l'huile. Il fait également des peintures qui sont des peintures des gouaches. Il n'y a pas un corpus d'œuvres important que je puisse vous citer. Hein. J'en ai trouvé des reproductions ici et là, mais
bien sûr, on est dans le domaine du méconnu.
Véritablement, je crois que nous pouvons insister là-dessus. Effectivement, je reprends votre mot parce que les spécialistes qui se sont intéressés à d'autres aspects de l'art vietnamien disent et répètent qu'ils n'ont pas accès à des archives, que c'est très compliqué. La période coloniale, elle, oui, permet d'avoir accès. Mais par la suite, c'est extrêmement difficile. Et pour ma part, j'ai essayé d'avoir des renseignements sur des écrits qui soient les écrits des artistes eux-mêmes, par exemple. C'est une chose extrêmement précieuse. On aimerait... Ces gens-là ont tous eu une éducation française. Ils ont tous correspondu en français. Et on aimerait avoir là un corpus de documents qui ouvrirait complètement l'intelligence que nous avons de leurs œuvres et de la situation.
Alors, si je résume cette comparaison coloniale à laquelle nous nous sommes livrés depuis le début de notre discussion, on a des situations à la fois croisées, enfin qui se croisent, s'opposent et se ressemblent, c'est-à-dire d'un côté une colonie de peuplement qui globalement exclut les autochtones, ce qu'on appelle à l'époque les indigènes, d'un enseignement à l'occidental qu'elle se réserve. De l'autre, au contraire, une colonie d'exploitation qui, et on comprend finalement que c'est pas si paradoxal que ça, ouvre au contraire aux indigènes, aux populations locales, un enseignement mixte, occidentalo-oriental, oriental-occidental. Et puis, deux figures tutélaires françaises, d'un côté Dinet, de l'autre Tardieu, dont on n'a pas rappelé que c'est, ça peut intéresser les auditrices et les auditeurs, que c'est le père de l'écrivain poète Jean Tardieu, qui sont venus de France, qui se sont pris de passion pour ces pays, hein, je crois, et qui sont dans une sorte de situation comme ça, de transfuge un petit peu entre admiration et quand même et condescendance à l'endroit des arts de ces pays, et qui chacun va trouver un émule. D'un côté, un artiste algérien qui va être admis pour la première fois à faire un art figuratif, et de l'autre, un artiste indochinois, un artiste vietnamien, qui va produire des œuvres un peu à l'occidental.
Je voudrais juste dire, il ne s'agit pas d'un jugement condescendant hein, sur l'art vietnamien, et a fortiori sur l'art asiatique dans son ensemble. Tardieu est d'une admiration parfaite pour un art d'une grande civilisation.
Tôi nghe người ta kể chuyện, xin hát bà con cô bác nghe, xin hát bà con cô bác nghe. Mẹ người ở đất phù sa, mười năm đã già như tám mươi, đã già như tám mươi. Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay, sớm tuy là tuy sớm nhỏ, đổi thay không ai chê Việt Nam, dân tộc ta thiếu sức hùng, mà người thì quanh năm phải sống với hãi hùng. Năm mươi năm làm dân chưa được mấy lúc mừng, vậy mà mẹ không than, sống với lòng thương.
France Culture, l'art est le méconnu. Une collection de Bruno Nassim Aboudrard.
Alors, il me semble que les deux situations artistiques, la situation indochinoise et la situation algérienne, on peut dire plus globalement d'Afrique du Nord, parce que on verra qu'en fait la scène se déplace beaucoup au Maroc dans cette période. Il me semble que ces deux situations artistiques sont traversées par les deux mêmes apories que j'ai relevées. La première, c'est une hésitation perpétuelle entre régénérer l'art indigène par son contact avec le grand art européen, c'est-à-dire avec les beaux-arts, ou craindre pour cet art indigène une forme de corruption par le métissage. Et la deuxième aporie que rencontre, qui traverse cette période et ces régions, c'est d'avoir la certitude que c'est le savoir occidental, l'orientalisme au sens d'Edouard Said, qui détient la connaissance juste des arts et artisanats indigènes, au point d'en édicter des critères d'authenticité. C'est-à-dire que ce sont les Français qui édictent des critères d'authenticité et de qualité. Alors sur la première aporie, donc cette hésitation entre régénérescence de l'art indigène par contact avec le grand art européen ou crainte d'une corruption par métissage, j'ai relevé dans vos ouvrages respectifs deux citations qui ne sont pas des citations de vous, mais qui sont des citations de sources et qui me paraissent tout à fait éclairantes. Émilie Goudal, vous citez Arsène Alexandre, un critique d'art, qui écrit en 1907 dans un ouvrage qui s'appelle Réflexion sur les arts et les industries d'art en Algérie, qui est publié à Alger aux éditions Arbar en 1907, autrement dit, c'est vraiment de la vraie recherche que vous avez menée. Il écrit « La fusion entre le tempérament artistique des deux races, française et arabe, sous-entendu, est-elle désirable? Est-elle même matériellement possible? Il y a des grèves qu'il est chimérique de tenter, et celle-ci n'a jamais réussi. En somme, vouloir hanter le pommier sur le dattier paraît une entreprise paradoxale, et l'on s'étonne que les esprits, à moins de n'avoir point le sens ni la connaissance des règles physiologiques de l'art, ait pu en concevoir et en défendre le rêve. » extraordinaire, cette phrase, hanter le pommier sur le dattier. Et puis vous, Pierre Paliard, vous citez un homme alors parfaitement inconnu, un certain Silis, quel nom, qui écrit de Phnom Penh, vous l'avez évoqué, c'est le directeur de l'école d'art de Phnom Penh, il écrit en 1924, « Il n'est pas démontré que l'enseignement de principes absolument étrangers à leur tradition remettra les Cambodgiens et les Annamites dans la voie qu'ils auraient dû suivre et qu'ils n'ont abandonné qu'en apparence. Si on regarde de près la cause de la décadence des arts indochinois, on voit très clairement que, pour une grande part, cette décadence est due à des apports occidentaux imposés la plupart du temps sans goût ni mesure, alors qu'il eût été souhaitable d'éliminer tout ce qui n'est pas immédiatement occidental et de protéger, en leur laissant leur pureté, les œuvres originales des artisans du pays. » Donc dans les deux cas, une récusation du métissage, de l'hybride et de toutes ces valeurs, au fond, qui sont par ailleurs des valeurs défendues par la colonie.
Oui, alors après, il faut aussi remettre aussi dans le contexte de ce qu'a pu incarner la colonisation et la possibilité aussi pour la France de montrer la richesse de ces territoires et comment finalement les arts étaient très prisés par les collectionneurs sur le marché de l'art, les arts autochtones, là, en l'occurrence les arts du Maghreb, les arts musulmans. Et c'est intéressant de penser ce contexte historique particulier, notamment avec les travaux de Prosper Ricard, dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, cette volonté finalement de vouloir préserver un artisanat qui est très demandé par les collectionneurs en France notamment, et qui par conséquent est aussi menacé de disparaître dans des collections privées. Et lorsque Arsène Alexandre fait ce rapport à la demande de la gouvernance en Algérie, c'est un rapport qu'il a rédigé en 1905 et qui a été édité en 1907, il explique justement cette phrase qui est quand même assez parlante, de l'impossibilité d'enter, c'est-à-dire de greffer le pommier sur le dattier. Et vraiment cette idée que le métissage n'est pas possible, parce que tout au long finalement de ce texte, on comprend bien qu'il y a une forme de génie pensé de manière essentialisée, qui va s'exprimer biologiquement, on pourrait donc le dire, puisque c'est comme ça qu'il était pensé, à travers celui qui va exécuter ses arts. Et donc l'idée est finalement pas forcément de se préparer au sens strict, puisque était dicté à l'intérieur de ce texte d'Arsène Alexandre que vous citez, la volonté de réunir ces deux types d'arts. Alors, de côté plus artisanat, on parle pas vraiment d'artistes, c'est des artistes traditionnels, artisanat, aux côtés du génie des peintres européens en formation. Dans le jardin d'essai, il y a la volonté de créer une école et pour qu'ils puissent se côtoyer et se stimuler les uns les autres. Ce qui est intéressant, c'est que finalement l'histoire va déjouer et des artistes dits indigènes, je pense notamment à Zouaou Mameri, va se saisir de la peinture de chevalet très très tôt. C'est un artiste qui va partir au Maroc pour exercer en tant qu'instituteur. Et il est intéressant, vous parliez tout à l'heure des correspondances d'artistes. À Zouaou Mameri, on a trace d'une lettre d'Zouaou Mameri adressée à Jean Alazar, qui était donc le directeur de l'école du musée des Beaux-Arts d'Alger, où justement il expliquait que l'indifférence à l'endroit de sa peinture en Algérie le choquait particulièrement et qu'il aurait bien aimé être exposé justement dans le cadre du centenaire de la dite conquête de l'Algérie de 1930, donc c'est une lettre de 1929. Et il faut savoir qu'Zouaou Mameri avait déjà exposé dès 1921 et avait reçu un vrai enthousiasme de la part de Léonce Bénédicte, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc vous voyez comment tout ça circule et finalement l'existence va venir déjouer un petit peu ces compartimentations.
Ce refus du métissage, j'ai l'impression qu'on le retrouve en Indochine. Et je suis en train de penser est-ce que vous ne pensez pas que cette vision, au fond, biologique de l'art accompagne aussi des règles d'ordre sexuel. Enfin, le fait que elle est contre les mariages mixtes, préserver en quelque sorte les races françaises et les races...
Oui, un sujet qui est tout à fait passionnant.
Pierre Paliard.
Ce dont il est question... À propos des arts traditionnels, le constat est fait qu'il y a des synthèses sauvages. Et c'est ça ce que redoutent les personnes qui sont sur responsable de ces productions, c'est que les artisans, alors Tardieu utilise cette expression, certains artisans vietnamiens, par exemple, prennent le style Henri II et mettent des dragons sur des meubles Henri II. Alors là, ça, c'est insupportable, quoi. Alors, ils utilisent, par exemple, les revues, qui sont les revues des grands magasins, des choses comme ça. Ils trouvent des motifs, qui sont des motifs occidentaux. Et il y a vraiment un travail qui est un travail une synthèse par le bas qui est tout à fait passionnante avec une sorte d'invention oui. populaire, mais évidemment ça ne correspond absolument pas au désir de la colonie. Il y a de l'invention, mais cette invention est récusée. Et précisément, Tardieu veut former. Alors, il veut former des artistes. Hein. Il s'en cache un peu auprès du gouverneur dans son projet. Mais en réalité, son but secret, c'est de former des artistes parce qu'il est persuadé qu'il y a une sorte de correspondance, d'intelligence profonde, si on va au fond des choses, une intelligence profonde possible entre l'art du Vietnam, de l'Asie et l'art occidental. Et il en fait la démonstration. C'est-à-dire, dans ses textes, il fait la démonstration en disant, mais au fond, il y a une passion de la nature, que ce soit chez les occidentaux ou que ce soit dans la grande peinture chez Wang Wei, par exemple, la peinture Tang au 8e siècle, il y a une passion de la nature qui fait que nous avons là une accroche en réalité, et que c'est au-delà du conflit des races, il y a une possibilité de trouver des passerelles et un univers commun entre ces grandes civilisations.
Alors métisser, ce serait abâtardir, hein.
Métisser, abâtardir, ce qui est très curieux, c'est que le métissage est vu comme une chose positive dans le grand art, puisque d'une certaine manière, ce que l'on veut faire à travers l'école de Hanoï, c'est bien une sorte de rencontre vivante entre l'art occidental, l'art classique occidental, l'académisme essentiellement, et toute la tradition orientale. C'est bien ça ce dont il s'agit. Il s'agit de faire des artistes qui seront capables d'avoir une production qui sera une production typiquement vietnamienne, mais qui aura intégré les deux sources. Mais, juste un mot, effectivement le métissage, toutes mes sources montrent que le métissage des corps, lui, est rejeté.
Alors, j'aborde le second point, et qui revient à cette question de la condescendance dont on a discuté il y a quelques minutes. Pour éviter le métissage et cette admiration qu'ont les Français pour les arts ou artisanats locaux, elle va aussi avec l'idée, c'est un peu ce que j'ai noté, que ce sont eux, les Français, qui sont capables de le mieux connaître, de le mieux décrire. C'est pour ça que je parlais d'une certaine façon de condescendance. C'est l'idée que ce sont les colons qui savent ce qu'est la pureté de l'autre, et qui peuvent déclarer la pureté de l'autre. Et ça me paraît très central dans la pensée de Prosper Ricard. Donc je voudrais que vous rappeliez qui est Prosper Ricard, et puis qu'on évoque son Atlas des tapis marocains, et puis le Dahir qui l'inspire, le Dahir du 22 mai 1919, qui l'inspire au sultan du Maroc, et qui régule exactement ce qu'est un vrai tapis marocain. Donc peut-être vous revenez sur cette figure très intéressante de Prosper Ricard, comme le spécialiste d'un art ou d'un artisanat nord-africain et plus particulièrement berbère, que les berbères eux-mêmes ne connaissent pas ou ne connaissent plus ou ne sont pas capables d'identifier.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs, il faut penser aussi comment se sont construits des savoirs hein, sur ces territoires
Absolument.
Colonisés. D'ailleurs, Arsène Alexandre parle de colonisation culturelle hein, dans son texte et aussi cette idée de finalement de nommer les choses et donc de les faire exister dans le monde parce que on possède l'écrit et le pouvoir de nommer et de décrire les choses
et de classifier
finalement. Et Prosper Ricard est intéressant à plusieurs titres puisqu'il a commencé à travailler en Algérie, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure avec Mohamed Racim, mais c'est plutôt au Maroc qu'il a le plus travaillé et il fait le lien avec ce que j'expliquais tout à l'heure, cette idée finalement de vouloir préserver un art qui pourrait être corrompu par la présence coloniale et donc d'en édicter son authenticité, de le faire connaître et de montrer quelles sont les bornes établies qui pourraient montrer la véracité d'un art authentique. Authentique, maghrébin, local, stimulé. Et c'est pour ça qu'on enferme aussi les artistes artisans à l'époque dans ces carcans. Et en même temps, cela apporte une certaine forme de connaissance. Il y a beaucoup de publications qui sont faites. Vous parliez tout à l'heure de l'Atlas des tapis marocains. Ça permet aussi de voir, à travers des recherches aussi dans les ateliers, de voyages à l'intérieur des territoires.
Il y a des photographies.
Voilà, qui sont importantes.
Plusieurs musées.
Mais qui toujours, oui, et la construction des 1900, la volonté des 1915 de construire un musée, mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, cette idée de vouloir préserver un artisanat qui est en train, un art traditionnel qui est en train de se perdre dans les collections privées, est assez intéressante à plusieurs titres, et donc de vouloir collecter comme ça, et de préserver finalement ce que la colonisation est en train de faire disparaître. Mais ce sont toujours en termes de richesse qu'il faut penser ces choses-là, je crois.
Exactement, en termes de richesse, et même en termes, en partie, en termes de commerce. Et ça, c'est un aspect que vous abordez l'un et l'autre discrètement mais fermement dans vos ouvrages et sur lequel je voudrais revenir peut-être là encore en vous soumettant deux citations que vous proposez dans vos livres. L'une est de Prosper Ricard. « Soucieux de soutenir, de documenter, de développer une industrie intéressante entre toutes, le protectorat a pris dès la première heure des mesures propres à relever et à encourager les tapis marocains. » C'est dans la préface de l'Atlas, ça veut dire encourager le commerce en faisant faire par les berbères, et notamment par les femmes berbères, de vrais tapis marocains que, globalement, seuls les Français savent identifier. Vous, Pierre Palliard, vous citez Victor Tardieu. Alors que la vogue s'accentue de jour en jour en Europe et en France particulièrement des productions artistiques extrême-orientales, ne devrions-nous pas nous efforcer à mettre les œuvres de nos artisans indochinois qui ne paient que des droits de douane insignifiants en état de concurrencer celles d'origine chinoise ou japonaise. Donc on voit bien qu'il y a aussi des marchés derrière ça. Pierre Palliard, peut-être vous pouvez évoquer ces questions commerciales.
Pour ce qui est de Tardieu, il a cette ambition de vendre son école des beaux-arts en insistant beaucoup sur tous les avantages que on pourra en tirer. En réalité, je pense que c'est un homme qui a vraiment la passion de l'art au sens de son époque, au sens de son milieu, et c'est l'école des beaux-arts qui l'intéresse. C'est le fait de faire des artistes.
Donc il sait parler aux tutelles, comme on dirait aujourd'hui.
Oui, il sait parler aux tutelles. Et il sait vendre son projet, voilà. Mais c'est un homme de cœur, et il va effectivement s'y donner corps et âme. Il se consacre à l'école, il va s'y consacrer jusqu'à sa mort en 1937, et ça va être un combat permanent. Et non seulement il va organiser les enseignements, etc., mais il aura aussi le souci de promouvoir ces artistes. Il y a eu 138 artistes dans les promotions d'avant-guerre, entre la création de l'école, 138. Et ça fait, en fait, des toutes petites promotions d'une dizaine d'étudiants chaque année. C'était
bien sûr, ce sont des
élites. C'était très peu. Et il y avait un contact qui était un contact de maître, véritablement, avec ces élèves qui étaient des élèves, on va dire, indochinois, pour parler vite. Voilà. Je ne réponds pas complètement à votre question, mais j'insiste.
Si vous y répondez, on peut dire que de la même façon, Prosper Tardieu va rester au Maroc après l'indépendance et dire aussi qu'il est l'auteur des principaux guides bleus du Maroc, la première édition, je crois, est de 1916, mais vous pouvez me corriger. Et donc, il y a cette dimension touristique. Et aujourd'hui encore, c'est une figure assez respectée, enfin ambivalente, mais assez respectée par les Marocains qui y voient notamment un des inventeurs du tourisme marocain qui a une telle importance.
We are still black. And we have come back. Nous sommes revenus. We have come back and brought back to our land, Africa, the music of Africa. Jazz is a black power. Jazz is a black power. Jazz is an African power. Jazz is an African music. Jazz is an African music. We have come back.
Culture, l'art est le méconnu. Une collection de Bruno Nassim Aboudrard.
Alors, la période coloniale va prendre fin après la guerre, assez douloureusement, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les deux régions sur lesquelles on se penche aujourd'hui. Et à ces guerres coloniales va succéder ce qu'on appelle la guerre froide. Donc le monde se reconfigure. Et dans la guerre froide, il y a des enjeux artistiques, et ces enjeux artistiques passent notamment par l'opposition entre l'abstraction, qui globalement est l'art du camp de l'Ouest, l'art, alors il y a une abstraction américaine qui va se développer énormément, et les artistes qui appartiennent à ce que l'on appelle à l'époque le monde libre font prévaloir en gros la peinture abstraite par opposition à la peinture réaliste, et notamment du réalisme socialiste, qui est l'art que l'on va trouver développé dans l'Est, dans les zones d'influence soviétique. Mais dans le cas arabe, il y a il me semble, je m'adresse à vous, Émilie Goudal, qu'il y a un jeu encore plus compliqué. Parce que, d'abord, parce que on assiste aussi à la naissance du tiers-monde, qui cherche à avoir une relation de relative indépendance par rapport à ces deux blocs de la guerre froide. Et ensuite, parce que la question palestinienne, la question de la création d'Israël en 48 et de la guerre israélo-palestinienne qui s'ensuit immédiatement, crée d'un côté un art arabe figuratif, d'une figuration tragique qui est en charge de représenter ce que l'on appelle la Nakba, la catastrophe, c'est-à-dire la perte qu'éprouvent les Palestiniens de leurs terres, et de l'autre, dans la région qui nous concerne aujourd'hui, l'Afrique du Nord, et plus particulièrement le Maroc et l'Algérie, l'émergence d'une peinture abstraite, mais qui, je crois, est une peinture abstraite qui ne veut pas dépendre des critères esthétiques européano-américains ou américano-européens, des critères esthétiques occidentaux, et prétend être une peinture abstraite indépendante, une peinture abstraite des indépendances, il me semble, et une peinture abstraite surtout profondément autochtone.
Alors oui, tout à fait, je crois que dans le champ justement de la peinture, il y a vraiment une volonté de la part des artistes que du Maghreb, particulièrement en Algérie, qui est le terrain que j'ai le plus étudié, mais aussi au Maroc, il y a des liens que je vais vous exposer d'ailleurs aujourd'hui, d'une volonté d'abord de se réapproprier l'histoire des arts à l'intérieur de ces territoires et de réinscrire de manière inclusive les artistes algériens ex-colonisés, d'une histoire de laquelle ils avaient été exclus. C'est d'ailleurs la figure de Mohamed Radda qui est la plus parlante, même si on peut noter le travail de Jean Sénac qui a été très important, des premiers textes aussi de Mohamed Issiachem qui a publié pendant la guerre sur la question de la peinture algérienne, cette nécessité d'avoir de voix au chapitre à l'intérieur de la modernité. Et donc ça va passer par une renégociation de la modernité.
Rappelez peut-être à nos auditrices et à nos auditeurs qui est Jean Sénac, qui est Mohamed Radda.
Bien sûr. Alors, Jean Sénac est un poète algérien, français d'origine européenne, qui a été un des acteurs très importants en Algérie de la période coloniale et la période post-coloniale, notamment pour son travail de critique d'art, de poète, d'éditeur de revues, de mise en place d'expositions, puis de groupe d'artistes mixte pour le coup, et qui a été très important dans la question de repenser les arts après l'indépendance, dans le sillage de l'indépendance, tout particulièrement dans cette nécessité de rendre une histoire inclusive qui ne va plus exclure les colonisés de la grande histoire. Et Mohamed Radda fait donc partie aussi des amis de Jean Sénac, et on sent bien dans son travail écrit. Mohamed Radda est un artiste peintre né à Mostaganem en 1930, qui va commencer d'abord, il va être formé au métier de l'imprimerie, et il vient d'une famille très très pauvre de Mostaganem.
Très très pauvre, mais les métiers de l'imprimerie en Europe comme en Afrique du Nord sont en même temps ont toujours été les métiers ouvriers les plus intellectuels, si je puis dire. C'est là qu'on recrute les grands syndicalistes.
Exactement. Et c'est d'ailleurs par ce métier-là qu'il arrive à financer son voyage en France. Alors d'abord, donc je disais autodidacte, il va avec son ami Abdallah Benhanteur, pouvoir continuer à sa formation, puisque lui, Abdallah Benhanteur, lui, a accès à une formation artistique en école d'art. Et Mohamed Radda, lorsque, dans la fin des années 50, il se retrouve avec Abdallah Benhanteur en France, il va suivre les cours du soir à l'Académie de la Grande Chaumière, et il découvre à la BNF les travaux d'un peintre médiéval, Yahya El Wassiti, et il découvre les Makahamat
d'El Arab. Peintre irakien.
Voilà. Exactement, peintre médiéval irakien, qui est très important pour le monde arabe d'ailleurs dans la volonté de penser une peinture moderne, que ce soit pour le groupe de Bagdad qui a été fondé en 1951, que ce soit pour...
Alors là, d'artistes figuratifs.
Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Radda va trouver à l'intérieur donc de ces illustrations les voies, si vous voulez, d'une abstraction qui serait issue finalement d'un art arabe médiéval et qui va permettre de créer une autre généalogie de la modernité, de l'abstraction.
Alors, Radda est en France. Mm-hmm. Il trouve dans une bibliothèque française des œuvres d'un enlumineur, d'un artiste irakien du Moyen-Âge. La géographie est quand même très importante. Quoi. Ça veut dire que ces œuvres, elles ne sont pas arrivées n'importe comment. Elles sont arrivées parce que les Français les y ont prises à un moment de l'histoire. Donc et de France, en quelque sorte, il écrit, je vous le citez, « La colonisation a fait oublier à tout un peuple sa véritable culture, car l'art de l'islam est un art non figuratif par excellence. En rejetant la figuration au profit d'une stylisation, d'une abstraction de plus en plus poussée, l'islam a produit une métaphysique d'où est exclue l'anecdote. » S'il y a à parler d'abstraction dans l'art, c'est vraiment dans les pays musulmans. C'est très intéressant, cette idée que l'art abstrait est profondément musulman. C'est une idée, d'une certaine façon, que l'on trouve aussi chez Prosper Ricard, au fond. Mais là, il inverse le stigmate, si je puis dire. Et c'est quand même en France que ça se passe. Enfin, on a là, il me semble, des paradoxes d'époque qui sont de plus en plus difficiles et de plus en plus passionnant à saisir aujourd'hui. Je voudrais que vous précisiez ces points.
Et peut-être pour compléter, je citerai une autre phrase de Mohamed Radda. Il disait « Dans l'Occident que nous rejetions, nous avons trouvé nos propres racines ». C'est intéressant que vous parliez justement de cet ouvrage qui est accessible par la BNF parce qu'il a été déplacé en France. Il faut savoir que Mohamed Radda et plusieurs artistes d'ailleurs algériens et pas que algérien d'ailleurs, Jean-Michel Atlan aussi, qui fait partie des artistes algériens, se plaignent de ce que l'on voit dans les musées en Algérie, de l'impossibilité, si vous voulez, de dépasser le filtre écran d'une esthétique orientaliste quand on veut voir des œuvres d'art en Algérie. Et dans les musées, en tout cas, dans les musées algériens. Finalement, Radda, il n'est pas forcément dans un retournement du stigmate ou dans une compartimentation qui serait finalement l'inverse de ce qui a pu être fait pendant la colonisation. Il est plutôt dans une pensée du syncrétisme, en voulant distinguer aussi la possibilité de penser des racines dans l'art musulman, de l'art abstrait, de ne pas forcément vouloir confondre les deux, mais il va relire les travaux de Mondrian à la lumière de cette filiation arabe. Il va vouloir penser aussi la possibilité aussi pour les artistes après l'indépendance chance de pouvoir choisir les influences parmi un creuset qui est bien beaucoup plus vaste que le territoire algérien, maghrébin, colonisé et décolonisé, c'est-à-dire l'espace du champ monde. C'est-à-dire déjà, on est dans une pensée pluriverselle. Mais ce qui est intéressant dans cette réécriture, en voulant retracer l'histoire de l'art arabe, de l'art berbère, des peintures de Tassili, hein, donc c'est des peintures rupestres, on va remonter vraiment dans l'histoire des arts. On va plutôt, et il est plutôt dans le sens de penser l'esthétique à travers le genre humain plus que par une forme de racialisation. Donc c'est plutôt à ça qu'il va tordre le cou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il inverse quelque chose d'assez fort. Il cite même Picasso. Quand on parlait tout à l'heure de modernité, de comment les penseurs occidentaux créaient l'authenticité, pensaient l'authenticité, comment ils construisaient l'histoire de ces territoires à découvrir, c'est aussi quand on pense la manière dont est écrite la modernité aujourd'hui, quand on pense les relations au primitivisme, à l'art de Picasso et comment finalement l'art des pays lointains était un stimulant mais ne pouvait pas avoir sa propre modernité, il était exclu de la modernité.
Pierre Palliard, Émilie Goudal parle de la modernité à plusieurs reprises et en même temps définit, évoque une modernité qui semble plurielle et vous, je crois que vous parlez de modernité directement au pluriel pour désigner cette période dans le champ d'études qui est le vôtre.
Oui, je pense qu'on est obligé de considérer toutes ces productions non pas dans une sorte de tableau diachronique de la culture européenne, mais véritablement en fonction de leurs propres nécessités sur place, avec toutes les contraintes du milieu et avec l'intelligence que cela suppose. Non, je pense qu'il y a des situations de modernité. Il n'y a pas des formes qui soient des formes modernes. Il y a des situations de modernité. Si la modernité, c'est l'idée de progrès, c'est-à-dire qu'il y a comme ça une évolution qui est nécessaire. Et c'est bien ce que l'on retrouve, ce qui est le message principal apporté par l'Occident, c'est que effectivement tous ces peuples ont conscience qu'il y a une histoire qui s'est ouverte. Ils ont conscience que l'individu prend une place de plus en plus croissante. Ils sont artistes parce qu'ils sont individus. Et qu'ils ont cette mission de donner une parole à leur peuple, de donner une parole à l'histoire. Donc là, ce sont des éléments de modernité qui vont trouver des traductions qui parfois sont des traductions d'une maladresse que nous jugeons parfaitement maladroite parce que on a des constructions qui sont des constructions de collage entre des modèles qu'on vient prendre soit en Occident, soit dans la tradition vernaculaire. Et tout à coup, on fait des sortes d'assemblages qui sont des essais, parfois incohérents, apparemment, ou parfois très réussis. Mais je crois que nous devons imaginer la modernité comme une sorte de moteur particulier qui se fait en fonction de cette situation de modernité. Par exemple, Tardieu. Tardieu est un académique. Bon, il pratique ce qu'on pourrait appeler un post-impressionnisme, mais avec des styles qui peuvent aller soit d'un style sombre, un style clair, enfin bref. Mais Tardieu, lorsqu'il va au Vietnam, se trouve précisément en situation de modernité lui-même. Parce que c'est en face des élèves qu'il rencontre, de l'extraordinaire appétit que ces jeunes gens ont pour la culture mondiale, on peut dire, et la culture occidentale en particulier, ce qu'ils apportent même de leur propre culture, lui est déstabilisé. On peut dire qu'il est déstabilisé, non pas dans un sens négatif, mais il est déstabilisé effectivement parce qu'il s'ouvre au monde à sa manière. Et il est dans une situation de modernité. Et justement, il va encourager des pratiques qui vont être des pratiques d'invention pour ses propres élèves, en souhaitant que ceux-ci acquièrent une autonomie et une véritable capacité qu'il juge être une capacité artiste, hein, donc dépasser le statut d'artisan. Et ils vont le faire, les premières générations sont tout à fait remarquables, des écoles de Hanoï. Ensuite, une fois la grande époque de Tardieu passée, le couvercle va se refermer, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des pressions sur place, pour que effectivement on en finisse un peu avec cette formation d'artistes indigènes et qu'on en revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire à quelque chose qui soit plus pratique, plus concret, tourné vers les arts décoratifs.
Tandis qu'au moment de la décolonisation, ce couvercle que vous évoquez s'ouvre au Maroc avec une autre figure de la modernité qui serait, je dirais, une modernité par archaïsme. Je voudrais, là encore, vous proposer une citation, cette fois-ci d'un critique artiste marocain dans la revue Souffle, en 1967, Mohamed Cheba, qui écrit « D'autre part, la redécouverte de nos traditions artistiques peut nous doter des moyens techniques appropriés à nos besoins et à nos réalités. Le fonctionnalisme de l'art au Maroc, son intégration radicale à l'architecture et à la vie collective sont autant d'exemples qui nous serviront à l'élaboration d'un futur art national. Le statut de l'art traditionnel marocain est futuriste. Son adaptation nous permet d'emblée de nous situer dans les mouvements les plus révolutionnaires de remise en question artistique dans le monde. » C'est formidable cette phrase, le statut de l'art traditionnel marocain est futuriste.
Vous parlez là du Maroc, mais en réalité, toute une part de la modernité telle qu'elle a été conçue par les artistes vietnamiens repose sur le recours aux arts traditionnels et à toute une imagerie qui est une imagerie religieuse. Et pour une part, les critiques vietnamiens disent « Ah, là, nous tenons notre modernité. »
Mais quand ? En 30 ou dans les années 30 ou dans les années 60 ?
C'est dans les années postérieures, décoloniales, voilà. Particulièrement après 1960.
Ouais, et vous, Émilie Goudal, qui vous êtes plus particulièrement penchée sur la région ?
Ce qui est intéressant, c'est de voir justement que l'entreprise qui avait commencé à faire d'écriture d'une autre histoire des arts et qui une écriture de l'histoire des arts inclusive, en considérant les arts berbères dont je parlais tout à l'heure et l'art arabe sur le territoire et au-delà, en Algérie par Rada, il y a le même mouvement qui s'opère avec le groupe justement de l'école de Casablanca, avec une première revue, vous citez Souffle, c'est intéressant, mais je voudrais citer aussi la revue Maghreb Art, qui était...
La revue de Tony Marani.
Oui, Tony Marani, justement, et puis Mohamed Meleri, qui, dans le cadre des enseignements à l'école des Beaux-Arts de Casablanca, avait volonté aussi de reparcourir le territoire et de construire des manuels d'histoire de l'art inclusif, et donc c'est d'aller à la rencontre de ce qui se faisait et comme une entreprise, si vous voulez, de recensement, de classification pour inspirer les étudiants pour créer des œuvres d'art qui pouvaient puiser à l'intérieur de ces arts. Alors même qu'il existait, comme vous rappeliez tout à l'heure, les travaux de Prosper Ricard, là il y avait vraiment la nécessité d'aller voir sur place et de constituer soi-même un corpus de référence pour pouvoir élancer un nouvel art révolutionnaire. Et sur la question justement de cet art révolutionnaire et du rapport à la modernité, je voudrais revenir sur le titre même du premier ouvrage de Mohamed Rada, qui est « Éléments pour un art nouveau ». Il ne dit pas « Éléments pour une modernité algérienne », il parle d'un art nouveau. Et lorsqu'il parle des artistes qu'on pourrait qualifier de modernes en Algérie, il n'utilise jamais l'adjectif de moderne, il parle tout le temps d'art nouveau, il ne va juste l'appliquer, la modernité, aux artistes européens. Montrant quand même que cette distinction est très forte et que finalement il faut réinventer un vocabulaire, réinventer un corpus et peut-être aussi garder quand même en mémoire que ces corpus, ils existent, mais ne sont pas une doxa en soi. Et que finalement, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire que pas une forme de tabula rasa, mais plutôt de faire un inventaire critique pour ramener une forme de complexité et surtout insuffler un élan de création à des pays où les artistes, évidemment, dans le sillage des indépendances et d'une volonté nationaliste, cherchent aussi un droit de cité et aussi des contours d'un art émancipé, d'un art finalement décolonisé.
Je crois qu'on peut terminer sur cette idée si vous voulez bien, je résumerai ainsi. J'ai le sentiment, à l'issue de cette discussion, que le fait colonial a suscité une dialectique violente qui permet l'émergence de modernité. C'est autour de cette idée de dialectique violente, quelque chose qui accepte à la fois le fait colonial et le rejette.
C'est une négociation permanente. Oui, moi je pense que c'est une négociation permanente. D'ailleurs, par rapport aux artistes qu'on a pu voir au tout début, ou même les intercesseurs coloniaux, et qu'est-ce qu'il se passe après au moment du basculement des indépendances, c'est toujours une forme de négociation. Comment négocier avec une politique, trouver sa place. Vous parliez d'individu tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant de le poser en ces termes-là.
C'était « L'art et le méconnu » par Bruno Nassim Aboudrar. Préparation de l'émission, Sandrine Chaperon et Joseph Julien. Prise de son, Grégory Wallon. Réalisation, Clotilde Bivin.